Et tu fais quoi dans la vie ? Une question à laquelle on répond souvent, mais pas foncièrement. Un temps d'échange à la rencontre de professionnels qui nous parlent de leur métier, de leur parcours, de la réalité du terrain. Une façon de découvrir ou redécouvrir une profession, et pourquoi pas même se découvrir une vocation. Bonjour et bienvenue dans notre émission « Et tu fais quoi dans la vie ?». Aujourd'hui, nous avons la chance de partager un moment avec Pauline. Bonjour Pauline.
Bonjour Flavie.
Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ta profession, je vais te demander s'il te plaît de te présenter en quelques mots.
Oui, avec plaisir. Alors je m'appelle Pauline, j'ai 32 ans, je suis maman d'une petite fille de 3 ans. Et physiquement, je suis, j'ai les cheveux bruns, les yeux marrons, les cheveux un peu longs. Je pense être plutôt grande et plutôt souriante. En tout cas, là, c'est, c'est un peu ça. J'ai plutôt un sourire aux lèvres.
Voilà. Enchantée, Pauline. Et tu fais quoi dans la vie ?
Alors, je suis médiatrice, formée au travers du processus de la communication non violente et également facilitatrice autour des sujets de communication entre les individus. Donc finalement, mon métier, en fait, c'est d'aider les gens à mieux s'entendre, à mieux se comprendre pour transformer des tensions entre les individus de façon à ce qu'on arrive à avoir un dialogue constructif.
Super. Et du coup, c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas très connu, ou non. Du moins qui n'est pas très commun. Peux-tu nous dire comment tu as trouvé donc, ta voie et quel a été finalement ton parcours pour devenir médiatrice ?
Oui. Alors, mon parcours, j'ai démarré, moi, des études, j'ai fait des études en communication et en marketing, donc très loin de cet aspect humain, on va dire. Et à la fin de mes études, j'ai créé une entreprise avec une associée, une amie, et du coup, on est devenus associés. On travaillait dans l'événementiel culturel au service des entreprises. Et puis, déjà, à ce moment-là, je commençais à voir que l'événementiel, qui est un métier plutôt éphémère, ponctuel, manquait un peu d'une dimension plus, d'aller plus en profondeur autour des sujets sur les dynamiques internes dans les entreprises. Et cette envie de changer, de rechercher plus de sens a amené à, du coup, à re-questionner ma place finalement dans notre entreprise. Et j'ai fait le choix de quitter cette entreprise et cette aventure. Et puis, la relation avec cet ami associé s'est transformée. En fait, je crois que mon déclic a été ici de voir comment une relation basée sur des émotions qui sont proches de la joie, du rire, du soutien, de l'encouragement, beaucoup d'amour, d'amitié finalement avec une personne, en un instant et sans tellement savoir ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on peut arriver à porter des émotions plus de peur, de terreur, de colère, de haine. Et donc ça a été une vraie étape qui m'a questionnée en fait sur cette notion de relation, comment est-ce qu'on est en relation, comment est-ce qu'on est en désaccord aussi. Et puis dans cette même période, peut-être que c'est un élément qui m'a amené aussi à la médiation, ma maman est tombée malade et puis elle sera décédée quelques mois plus tard. Et donc ça a été aussi une étape de réflexion de ma relation avec elle, de la relation mère-fille, de réfléchir à ce que j'aurais voulu lui dire peut-être autrement, ce que j'aurais voulu qu'elle entende. Donc il y a un petit peu aussi cette phase de deuil et de travail à l'accompagnement en fin de vie qui re-questionne sur cet aspect de la relation. Et donc, voilà, je crois que c'est deux événements qui sont arrivés vraiment dans la même temporalité, mais qui m'ont réellement profondément touchée, impactée et questionnée, en fait, sur notre façon d'être en relation. Donc, je continue un petit peu, c'est peut-être un peu un récit, mais je crois que c'est intéressant. J'ai, face à ça, recherché des questions et en tout cas des outils. Peut-être c'était ma façon d'avancer et de pouvoir ressortir un peu la tête de l'eau. Donc, je me suis intéressée à la psychologie, à des outils de communication comme la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle. J'ai lu des écrits, des travaux de Carl Rogers. Enfin, voilà, j'ai vraiment cherché de la matière pour comprendre et vraiment trouver des solutions, de faire autrement parce que c'était ça fonctionnait pas, en tout cas c'était pas épanouissant la façon dont jusqu'à présent j'étais en relation. Et puis la communication non violente, donc que je vais parfois employer avec le sigle CNV, mais c'est plus rapide à dire. Quand j'étais dans cette phase un peu de recherche, de questionnement, j'avais la communication non violente qui revenait souvent pour dans mes étapes. Et puis, disons que c'est ma sœur qui m'a poussée à lire le livre « Les mots sont des fenêtres » ou bien « Ce sont des murs » de Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de ce processus. Et je l'ai lu un peu à reculons, si je peux le dire comme ça, sans grande conviction d'être captivée par ce processus-là. J'étais vraiment plutôt dans une démarche de me dire « Je vais plutôt chercher de la matière pour réfuter cet outil, c'est étrange. » Et puis au final, j'ai lu ce livre et j'ai entamé tout de suite une formation sur la communication non-violente. Et puis, c'est dans ce cadre-là que j'ai entendu parler de la médiation et du métier de médiateur. Et donc, j'ai enchaîné derrière avec une autre formation à la médiation par la communication non-violente. Et me voilà maintenant médiatrice.
Bah, c'est une super histoire, c'est un super début d'histoire. Et c'est vrai que du coup, tu nous as expliqué un peu les déclics qui t'ont provoqué l'envie de devenir médiatrice. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant ce qui te passionne le plus dans ce que tu fais ?
Il y a beaucoup de choses. C'est un métier que j'adore et je le présente vraiment comme un métier magnifique parce que je pense que déjà, il répond à un vrai besoin de sens et de contribuer à quelque chose pour le monde de demain, d'avoir un rôle aussi dans ce que je peux apporter au travers de ma personne et de mes compétences. Donc, il y a du sens et un sentiment de contribution directement avec les personnes que j'accompagne en médiation parce que quand on voit deux personnes, par exemple un couple séparé qui vient pour discuter de la façon dont ils vont s'occuper de leur enfant dans ce nouveau format de famille et qu'à la fin de ce temps de partage, ils s'effondrent en pleurs et se prennent dans les bras. Il y a des choses qui sont vraiment chouettes et qui me voient me dire... Enfin, je me dis, en fait, ouais, OK, là, ça avait du sens. Ces quelques heures que j'ai passées là, elles ont eu du sens pour ces personnes. Et puis, je crois qu'il y a aussi, dans ce métier, ce que j'adore et ce qui est important pour moi, c'est que ça me donne de l'espoir, en fait. Parce que je crois qu'il y a, au travers de la médiation et de la communication non-violente, ça me semble être des processus qui pourraient répondre à bien des maux de notre société et de notre monde et des problèmes relationnels, hein, parce que globalement, les conflits sont à la base une relation et une divergence d'opinion, mais qui concernent tous les aspects de notre vie et de notre société. Donc je crois que voilà, ça fait sens de travailler aussi à œuvrer pour un monde plus apaisé.
Et justement, j'imagine que ce n'est pas si simple. Donc, quelles sont les compétences et les qualités d'un bon médiateur ?
Alors, il y a tout un pan, évidemment, je dirais que je vais rattacher à l'aspect théorique, technique, connaissance, expérience. Il faut savoir que pour être rattaché au système judiciaire, par exemple, moi, mon cas d'être rattaché à la Cour d'appel de Lyon, il faut justifier d'une formation initiale avec un certain nombre d'heures, d'un certain nombre de médiations déjà réalisées, de justifier aussi de la formation continue chaque année, de supervision, d'analyse de pratique, de participation à des groupes de pratique. Donc, il y a beaucoup de contraintes, mais qui me semblent extrêmement nécessaires pour aussi évoluer. Donc tout ça, évidemment, ça va dans un aspect très technique, théorique et de compréhension des mécaniques de conflit. Ça, c'est un point important, en effet. Mais je crois que le principal, il touche plus la posture de médiateur. Parce que être médiateur, bon, c'est appliquer un processus et des outils, ça c'est OK, on les apprend, on peut les intégrer. Par contre, il y a, dans le code de déontologie du médiateur, le besoin d'être impartial. Et cette question de l'impartialité fait énormément de débats d'ailleurs, parce que est-ce qu'on peut vraiment être impartial, c'est une question. Mais en tout cas, c'est une posture, une attitude qui se travaille à chaque instant. Je me vois pas... Enfin, comment je pourrais dire Il y a en effet ce besoin de créer de la distance entre notre histoire et celle que l'autre nous raconte. Et pour ça, ça demande un travail sur soi, une connaissance de soi, d'avoir fait aussi un peu la paix avec son passé, de savoir aussi un petit peu comprendre notre façon de gérer un conflit, quelles sont aussi nous nos propres mécaniques dans cette notion de conflit. Donc c'est une connaissance de soi qui est indispensable et une façon de rester en empathie avec l'autre, sans jugement. Donc, tout ça, c'est peut-être la base, ce serait d'avoir foi avant tout en l'humain et de se dire que malgré les actes, malgré les mots, malgré les comportements, l'humain est fondamentalement bon. Et je crois que ça, c'est indispensable pour être médiateur.
Ça ne doit pas être simple. Mais c'est un métier qui a l'air plutôt noble et qui veut en effet avoir la paix dans ce monde. Mais tu nous as parlé justement de neutralité, d'impartialité. Et tu as déjà un petit peu fait un début de liste de ce qui peut représenter les principaux défis de ton quotidien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent en tête ?
Oui, alors peut-être hors cadre de la médiation en elle-même, je pense qu'il y a un des challenges, un challenge pour les médiateurs aujourd'hui, c'est la vision de la médiation et de la communication non violente dans notre société. Il y a quelque part, déjà, si je me tiens à la CNV, il y a peut-être des préjugés qui penseraient que être dans une attitude de communication non violente, c'est vivre dans un monde de bisounours où tout le monde est gentil, tout le monde s'aime et il y a des licornes et des paillettes de partout. Enfin, c'est très illustré et puis pas forcément très juste, mais il y a quand même des croyances qui sont rattachées à ce processus qui sont erronées. Et d'ailleurs, moi, j'en ai fait l'expérience, hein, ce que j'expliquais au départ. La CNV, ça ne m'attirait pas, probablement parce que j'avais un peu cette opinion que ça ne devait pas être très intéressant et très profond. En réalité, c'est pas une question d'être gentil, c'est une question d'être vrai, de savoir et oser dire les choses à l'autre sans l'écraser et de pouvoir écouter l'autre sans pour autant s'oublier soi-même. Donc il y a vraiment aussi cette dimension de non-violence vis-à-vis de l'autre, mais aussi de non-violence vis-à-vis de soi. Et donc ça, je pense qu'il y a de la difficulté à faire vraiment connaître en profondeur ce processus parce qu'il s'intègre dans un, je pourrais dire peut-être, un paradigme de société qui est différent que celui dans lequel on est. Quand on pense CNV et qu'on pense médiation, on est amené à sortir de cette polarité. Il y a le bien, le mal, les gentils, les méchants, j'ai raison, tu as tort, tu es normal. Tu es anormal, moi je suis normal. Toute cette polarité finalement qui vient mettre de la confrontation, de la dualité dans nos relations. Si on arrive à sortir de ça et à penser relation avant d'envisager les solutions, ça changerait tellement de choses pour moi sur cette terre. Et donc voilà, le challenge, il est aussi ici de travailler à œuvrer aussi pour la vision de la médiation et de la communication non violente dans notre société.
C'est vraiment intéressant. Et je me demande du coup si ton métier est finalement un nouveau métier ou un métier qui a toujours existé ou même un métier qui a évolué avec le temps.
Oui, alors bah, la posture de médiateur, je dirais, a toujours existé. Finalement, chercher des solutions à l'amiable, des solutions qui soient durables et satisfaisantes pour deux parties qui sont en désaccord, c'est absolument pas nouveau. Je pense que le métier s'est quand même structuré peut-être autour des années 80, en tout cas en France. Et depuis quelques années, et je vais peut-être parler de... J'ai prêté serment du coup à la Cour d'appel de Lyon pour... Donc c'est aussi de dire que des médiateurs s'intègrent prennent place aussi dans le système judiciaire. Mais le discours de la présidente de la Cour d'appel était vraiment celui de dire que c'est important de prendre soin de la relation. Et la justice telle qu'elle est aujourd'hui n'a pas forcément cette intention-là. On est, comme je le disais, dans un système de gentil, de méchant, c'est bien, c'est mal. Et puis du coup, on va punir et récompenser en fonction de là où on se trouve. Donc, on ne prend pas en compte la médiation, mais pour autant, un couple qui divorce, les personnes sont des parents, un papa et une maman, bah même après la décision du juge, ils resteront papa et maman de cet enfant. Des voisins qui sont en conflit, qui vont du coup saisir le juge pour avoir une décision, quelle que soit la décision, et probablement qu'il y aura un gagnant et un perdant, hein, on parle comme ça d'ailleurs, j'ai gagné mon procès, ils resteront quand même voisins derrière. Donc le discours et les mots qui étaient tenus par cette présidente de la Cour d'appel de Lyon voulaient vraiment prendre soin de la relation aussi dans les situations de tension. Donc je pense que l'évolution, elle passe aussi par cette nouveauté que la justice va de plus en plus tenter des médiations dans le cadre de la procédure judiciaire.
D'accord, c'est vrai qu'il y a du boulot et du coup, selon toi, c'est un métier d'avenir ?
Oui,
un métier de médiatrice.
Oui, un grand oui et il était très spontané. Mais oui, et je l'espère en tout cas parce qu'à nouveau, c'est vraiment une source d'espoir pour moi que de continuer à œuvrer dans cette société avec cette perspective qu'un jour peut-être on arrivera à un monde qui saura mieux gérer ces différends et ces conflits.
On s'accorde une petite pause musicale avec un morceau choisi spécialement par Pauline. À tout de suite. I can give you a voice bred with rhythm and soul. The heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony, let the words ring. Carry your thoughts in the songs we sing. Je te donne mes notes, je te donne.
bien ce que je vaux.
Dans la vie.
De retour dans notre émission et tu fais quoi dans la vie en compagnie de Pauline qui nous parle de son métier de médiatrice. Quand tu parles justement de ton métier, quelle question te pose le plus souvent ?
Alors, la question qu'on me pose souvent, en tout cas c'est une remarque ou plutôt une question qui n'attend pas forcément de réponse, mais je remarque que quand je parle de mon métier, il y a plutôt un intérêt et de la curiosité à en savoir plus. Mais il y a souvent cette phrase qui voilà, dit « mais c'est tellement utile, tu dois avoir tellement de travail ». Eh bien non. Alors, j'ai du travail évidemment, mais pas autant que ce qu'on peut imaginer. Parce que je crois qu'il y a peut-être une forme d'évitement et de penser que oui, le monde est violent, le monde est en conflit, qu'on voit du conflit partout, dans la rue, dans les familles, dans les entreprises, alors au niveau politique, géopolitique, etc. Il y a en effet des conflits partout. Mais on se dit, c'est les autres. C'est les autres qui sont en conflit. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément encore cette mécanique de prendre le conflit déjà à temps. Parce que bien souvent, c'est déjà, le conflit a déjà fait beaucoup de mal quand on intervient en tant que médiateur. Et puis, de savoir solliciter de l'aide, de se dire que peut-être, oui, on n'a pas encore toutes les clés.
C'est vrai que ce n'est pas une démarche qui est encore bien démocratisée dans l'esprit entreprise ou même dans un cadre particulier. C'est vrai que tu peux intervenir auprès de particuliers aussi.
Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Pendant plusieurs années, j'ai fait tout type de conflits. médiation sociale, médiation familiale, médiation voisinage, médiation entreprise. Et là, depuis quelques temps, je suis spécialisée sur les entreprises.
J'aimerais justement beaucoup que tu puisses nous embarquer avec toi sur une journée de travail et que tu puisses nous décrire à quoi ça ressemble la vie pro d'une médiatrice.
Oui. Alors, depuis quelques temps, j'ai intégré une agence qui travaille sur l'engagement des salariés. Donc, je le précise parce que c'est une agence qui s'appelle IDEM. Et je le précise parce que du coup, j'ai une dimension qui va au-delà de la médiation dans l'accompagnement de... peut-être d'amener une nouvelle façon de voir l'humain aussi dans le milieu professionnel. Et c'est l'intention finalement de l'agence IDEM que de travailler sur la question de l'engagement des salariés en interne dans les entreprises. Donc, je n'ai pas uniquement cette activité-là, mais je vais faire le focus sur quand même les missions de médiation parce que c'est ça qui fait que je suis là aujourd'hui. Alors, une médiation déjà, donc après avoir validé le consentement de chaque partie, parce qu'on a quand même une obligation de s'assurer que les parties... sont volontaires et ont envie de s'impliquer dans le processus d'une médiation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas intégrer une médiation forcée parce que sous la contrainte, voilà, ça doit venir de soi. Donc on met en place une convention de médiation qui est là pour cadrer, c'est rattaché à un code de déontologie, donc on a quand même des engagements en tant que médiateur, de posture à tenir, et surtout pour assurer la confidentialité des échanges. Dans le cadre d'une médiation, tout ce qui est dit en médiation ne peut pas être utilisé dans le cadre d'un procès. Donc il y a vraiment le fait de fermer, je dirais, les portes et que ce qui est dit en médiation ne sorte pas de la médiation, parce que c'est ça la sécurité aussi dont les personnes ont besoin pour pouvoir parler, échanger et se confier, parfois se livrer. Une fois que cette convention est signée et qu'on a l'accord et que, je dirais, la logistique et l'organisationnel est mis en place, on a ce qu'on appelle des entretiens individuels avec chaque partie qui est présente dans le litige. Donc un entretien individuel qui va durer à peu près une heure, entre 1h et 1h30. Je parle aussi de médiation. On a la médiation interpersonnelle, c'est-à-dire entre deux personnes, et puis la médiation qu'on va dire de groupe, où là, à partir de 5 personnes, on va solliciter plusieurs médiateurs. Donc moi, ça m'arrive aussi de faire des co-médiations dans le cadre d'accompagnement, par exemple en entreprise, d'équipes avec 12, 13, 14, 15 personnes qui sont impliquées dans la situation de tension. Donc les entretiens individuels, ils ont pour objectif de créer du lien entre le médiateur et la personne, et puis de pouvoir clarifier un petit peu ce qui se passe, parce que parfois on se raconte des histoires, voilà, on a notre façon de percevoir la situation, notre représentation de la réalité, mais qui n'est qu'une représentation, donc c'est intéressant d'avoir de la clarté sur ça, sur ce qui se passe et sur ce qu'on veut aussi. Donc ça permet de préparer ce qu'on va appeler la phase suivante, la phase plénière, où là on va rassembler toutes les parties concernées par le conflit. Et ça, c'est des échanges qui vont durer entre 3 et 4 heures. Et puis, on va pouvoir renouveler ces phases-là. Donc, c'est des échanges où nous, on a... En tant que médiateur formé par la communication non violente, je le précise parce qu'il y a des médiations qui ne sont pas forcément dans cette démarche-là. Mais nous, on va passer beaucoup de temps à écouter les histoires. On va passer beaucoup de temps à accueillir les rancœurs, les colères, de faire en sorte que les choses soient vraiment dites, de façon à ce qu'ensuite, on puisse chercher les solutions. Donc, le gros du travail, il est sur le fait de permettre aux parties en conflit de s'exprimer et d'entendre aussi l'autre version. Entendre, ce n'est pas forcément accepter, pardonner et comprendre, mais c'est juste entendre. Voilà ce qui s'est passé pour toi, voilà ce qui s'est passé pour moi. Quels sont nos besoins sur lesquels on peut se rejoindre? Et à partir de là, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions? Donc ça peut prendre finalement bien 2 à 3 plénières. Donc on peut passer du temps à ces moments-là. Et puis ensuite, il y a la recherche de solutions et la rédaction des accords écrits et puis signés par les parties.
Super. C'est vrai que j'adore justement demander à mes invités s'ils ont une anecdote à partager. J'aimerais savoir si tu as un souvenir marquant ou même un moment de vie où tu t'es dit que tu étais au bon endroit et que tu aimais ce que tu faisais et que c'était vraiment super.
Alors, il y en a plein, évidemment. Je vis beaucoup de choses... dans cette posture de médiatrice. Et en même temps, j'aurais envie de les raconter, mais c'est vrai que je reviens sur cette question de la confidentialité qui doit m'amener à faire attention à ce que je vais dire. Mais je pense que j'ai ma première médiation qui a été très marquante et peut-être que j'aimerais essayer de la raconter parce que donc c'était un père qui était en conflit avec sa fille adolescente de 16 ans. Et lors de l'entretien individuel, donc avec le papa, il me disait... voilà, que pour lui, il avait posture de père, que c'était lui l'autorité de la famille, que dès qu'il disait quelque chose, il fallait que ce soit accompli, que c'est lui qui travaillait, qui ramenait l'argent à la maison. Et donc, voilà, et donc il me faisait part de ça, de son histoire et de sa perception des choses. Et pour moi, c'était difficile de rester à l'écoute. Donc, on a des outils en tant que médiateur de pouvoir s'accorder de l'auto-empathie minute, de pouvoir avoir des petits... travaux de visualisation, donc là c'est vraiment de la pratique hein, qui nous permettent de rester connectés à la personne. Et donc je maintiens ma posture d'écoute et d'empathie, je reste connectée à lui et je reformule et je vais chercher chez lui qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Et donc assez naturellement on voit que c'est aussi son histoire qu'il a vécue avec lui, son propre papa. Et en fait on arrive à cet endroit qui m'amène... toujours un soulagement, une forme d'amour incroyable, c'est que lui, il me dit, en fait, quand ma fille, elle refuse de répondre à un de mes ordres, quand elle me dit non, moi, ce que j'entends, c'est « Papa, je ne t'aime pas ». Et il y a quelque part, parce que lui, c'était sa façon de prouver son amour à son propre père. Donc, c'est des stratégies, en fait. Mais ce besoin d'amour-là, moi, il m'a connectée parce que je le partage aussi, ce besoin d'amour pour moi, dans ma vie, il est hyper important, et pour lui aussi. Et quand on arrive à se connecter à cette phase humaine déchargée de couches de stratégies, de croyances, etc., on arrive à cette connexion d'humain à humain que je trouve vraiment très belle. Et puis, du coup, avec sa fille, ça a été une réconciliation hyper heureuse aussi et très, très chouette à voir. Après, c'est aussi des moments où, quand je vois que ces espaces de médiation, par exemple en entreprise, permettent de faire des confessions sur des agressions sexuelles et donc de libérer la parole sur ce qui s'est passé. Quand j'assiste aussi à ces moments, plus simplement, mais il n'y a pas longtemps, j'étais dans une équipe, ils étaient 15, et il y avait un clivage énorme, vraiment deux teams qui étaient dans une guerre les unes contre les autres. Et puis du coup, ça desservait complètement l'entreprise parce que tout le monde était malheureux, personne ne pouvait travailler convenablement. Et le moment, je ne sais même pas l'expliquer, peut-être il est sous une forme un peu invisible, mais ce moment où les personnes s'apaisent et se disent mais waouh, en fait, on arrive quand même à s'entendre là sur les besoins qu'on a et on se rend compte qu'on a les mêmes. Comment est-ce qu'on en vient à avoir des guerres avant ça pour satisfaire ces mêmes besoins? C'est quand même dingue. Et quand ce déclic, il a lieu chez les personnes, c'est quand même un état assez chouette pour moi à vivre.
C'est trop bien. Et c'est vrai qu'en préparant cette interview, j'ai noté aussi la citation de Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la communication non violente, qui disait justement ce dont tu parlais tout à l'heure, les mots sont des fenêtres. Ou bien ce sont des murs. Et je trouvais que ça illustrait parfaitement l'utilité de ton métier et l'idée que la façon dont on communique peut vraiment soit être une barrière ou à l'inverse un espace de connexion avec les gens. Mmh. Et donc toi, j'aimerais que tu puisses nous dire pour terminer si en tant que professionnel, tu pouvais nous donner un conseil pour adopter une communication non violente au quotidien ou une bonne pratique qui pourrait nous permettre par exemple de transformer un conflit en une discussion utile.
Ok.
Qu'est-ce que tu nous dirais?
Qu'est-ce que je dirais? Je pense que pour démarrer dans la communication non violente, c'est d'abord de s'écouter soi. Quand on est dans une situation qui nous fait réagir, être en réaction, donc avec de la colère, de la peur, de la tristesse, c'est important d'être à l'écoute de ce qui se passe chez soi. Parce que ça nous permet de prendre la responsabilité que ça nous appartient, que c'est pas l'autre qui est responsable de la colère, mais c'est moi qui, quelque part, la vis et pose une interprétation. Donc je dirais qu'il y a déjà prendre un temps d'écoute pour soi. Et que si ce n'est pas possible, parce qu'on ne va pas se le cacher, hein, ce n'est pas facile. On est dans un monde violent et vivre la CNV, c'est vraiment un challenge et un travail qui nécessite de l'entraînement, de la persévérance. Et donc, je pense qu'il y a aussi de pouvoir faire cette réflexion après coup sur les conflits et peut-être de ramener la discussion dans un état un peu plus apaisé et de ne pas forcément se condamner d'avoir été dans le conflit. Quelque part, c'est ce que j'ai fait à cet instant. Oui, je me suis énervée, je t'ai crié dessus, je t'ai peut-être parlé pas comme j'aurais voulu le faire au mieux. Mais après coup, voilà, en fait, ce qui s'est passé pour moi, et j'aimerais te le partager, parce que c'est ça qui va nous aider à comprendre nos émotions et nos besoins dans chaque instant.
Un grand merci, Pauline, pour ce partage d'expérience. C'était vraiment hyper intéressant.
Merci, Fabie, pour l'invitation.
Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve très vite pour partir à la découverte d'un nouveau métier. À très bientôt.
Calade.
Et tu fais quoi dans la vie?
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.